Bonjour à toutes et tous. Mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler draft et ça va chauffer. L'émission du jour vous est présentée par Wilson, la marque qui fabrique The Duke, le ballon officiel de la NFL. Les ballons du Super Bowl sont produits immédiatement après les finales de conférence pour faire apparaître le logo des équipes qui vont y jouer. Le ballon Wilson The Duke que vous retrouvez sur Decathlon.fr. Donc aujourd'hui, direction la Californie et San Francisco. Alors il a pris la planche de surf de son patron, Victor Roulier, est avec nous. Bonjour Victor.
Et bonjour à tous. Ouais, alors je surfe plus vers San Diego, mais on va faire une exception aujourd'hui.
Ah, c'est la Californie, chipote pas. Donc les 49ers, ils ont terminé la saison 2020 avec un bilan de 6 victoires et 10 défaites. Juste après un Super Bowl, ils ont donc terminé dernier de la division NFC West. Alors c'est vrai, ils ont eu leur quarterback Jimmy Garoppolo qui a été blessé, ils vont le récupérer, ainsi que le pass rusher Nick Bosa. Mais que leur manque-t-il encore pour espérer retourner en playoff?
Ah ben, je vais dire qu'en effet, le premier apport, ça sera déjà le retour des blessures. Parce que c'était quand même incroyable la cascade de blessures qu'ils ont eu l'année dernière. Il y a eu un moment où ils avaient quasiment 12 ou 13 titulaires blessés en même temps. C'était assez incroyable. Donc je pense que déjà, le premier renfort, ça va être le retour de tout le monde. Ça, c'est vrai. Premier besoin, un quarterback. Alors c'est vrai que moi, je fais plutôt partie des gens qui trouvaient que Jimmy Garoppolo avait prouvé il y a 2 ans qu'il était suffisant dans un système Shanahan pour gagner. Clairement, le trade-up en 3 prouve que c'est pas leur mentalité aujourd'hui. Donc voilà, quarterback, ça sera, et on va en parler, le choix du premier tour, ça paraît évident. Ils ont d'autres besoins, notamment dans la ligne intérieure. Alors ils ont pris notre cher ami Mac, mais c'est une solution plutôt court terme. Et au niveau des guards, il y a clairement des possibilités de faire mieux. Au niveau des cornerbacks, ils ont Verrett et Mosley qui seront là. Sherman est parti. Globalement, ça manque d'un leader, ça manque d'un joueur vraiment dominant. Linebacker, parce qu'il y a Fred Warner. Mais à côté, finalement, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas grand-chose, tout étant relatif par ailleurs, mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose qu'on peut améliorer. Et safety, pareil, il y a Jimmy Ward, mais pour moi, ça peut être amélioré aussi. Donc globalement, on parle d'une équipe qui est très complète, comme ne montre pas son bilan d'année dernière, mais encore une fois, voilà, il y a eu beaucoup de blessures. Mais ils peuvent améliorer plein de petites choses qui peuvent leur permettre de redevenir une équipe compétitive comme ils l'étaient il y a 2 ans.
Oui, effectivement. Et comme tu l'as dit, avec le trade, l'échange qu'ils ont fait pour remonter au choix numéro 3, ça paraît évident qu'ils vont prendre un quarterback. Alors les dernières rumeurs nous parlent de Mac Jones, le quarterback d'Alabama. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
C'est non, monsieur. Alors vraiment, je fais partie des gens qui ont Wilson devant Fields depuis quasiment le début. C'est-à-dire que vraiment, au début, je n'étais pas dans le consensus, maintenant je suis, ok. Par contre, Fields est pour moi incontestablement le troisième de cette draft. Et alors autant je pourrais comprendre qu'on me dise Trey Lance, potentiel athlétique incroyable, futur franchise quarterback, etc. Limite, je pourrais plus comprendre qu'on tombe amoureux du profil athlétique de Trey Lance qu'on tombe amoureux de Mac Jones. Mac Jones, c'est Justin Fields en moins bien. Clairement, enfin, je suis désolé, mais Justin Fields, c'est un joueur ultra précis. C'est un joueur fiable. C'est un joueur mobile qui peut vraiment, avec ses jambes, il peut aller très loin. Hein. Il est très rapide, il l'a encore montré au Pro Day. Alors oui, c'est un joueur qui a du mal sous pression. Bonne nouvelle, le système Shanahan est fait d'action très rapide et le quarterback n'est pas souvent sous pression. Donc, pour moi, Justin Fields, non seulement est le troisième meilleur quarterback de cette draft, mais en plus correspond exactement au système 49ers. Donc j'espère que Mac Jones est un écran de fumée, sauf que quand tu es en 3, l'écran de fumée, c'est pour qui? J'arrive pas bien à comprendre, puisque en 1 et 2, ça paraît assez clair qui va être pris. Mais clairement, pour moi, c'est Justin Fields tous les jours. Je ne comprendrai pas le choix Mac Jones.
Oui, après, de toute façon, tu sais, on parle des insiders, je veux bien qu'ils aient des contacts avec des gens, des staffs, mais bon, de toute façon, même eux, ils n'en savent absolument rien. Donc, ils peuvent dire Mac Jones, mais on n'en sait absolument rien. Moi, je suis d'accord avec toi, si c'était moi qui étais en charge, je prendrais Justin Fields, mais je vais dire quand même deux mots sur Mac Jones, parce que moi, je trouve que dans le système, justement, de Kyle Shanahan, il serait très très bien, parce que c'est un joueur qui est très fiable. Qui est sous la pression lance bien. Alors on va me dire oui, il a pas souvent été sous pression à Alabama, mais si, il a quand même été sous pression et il lance très bien, très précisément dans les petites fenêtres. C'est un joueur qui dans le système play action de Shanahan serait absolument formidable parce que justement il est très précis, il fait très peu d'erreurs, un système qui se base sur la course, qui se base sur beaucoup de jeux feintés et ça Mac Jones sait très 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 bien le faire. Donc moi je serais pas autant choqué que ça de voir Mac Jones, mais après voilà, je te rejoins, moi aussi je prendrais plutôt Justin Fields.
Non mais écoute, on verra bien, hein. On a vu des surprises plus grosses que ça, hein. On a
Oui.
vu des Trubisky, on a vu des choses comme ça. Et rappelons qu'ils ont toujours, évidemment, dans leur practice squad, le grand Josh Rosen,
Ah ben
évidemment,
oui.
de Chosen One.
Ouais.
Donc au pire, ils pourront tenter le pari de Josh Rosen, mais on le sait, hein, si vous avez Josh Rosen dans votre effectif, c'est que vous allez prendre un quarterback en top 10. Ça se vérifie année après année. C'est une sorte de loi qui est en train de s'établir en NFL. Donc surveillez bien où sera Josh Rosen l'année prochaine.
Ouais. Oh, mais la malédiction de ce gars, c'est
C'est
incroyable,
terrible, c'est
quoi. Ah
terrible, je
ouais.
te jure.
Ah ouais. Allez, on passe au deuxième tour. Qu'est-ce que tu nous fais pour le deuxième tour?
Et bien pour le deuxième tour, il y a beaucoup de directions possibles. Globalement, il y a des cornerbacks de très bon niveau, il y a des safeties de très bon niveau. Mais je vais parler d'un joueur qui est sur la ligne offensive intérieure, et finalement que je trouve un peu oublié. Alors les gens continuent à le mettre au second tour, hein, dans des mock drafts, mais on n'en parle pas tellement alors que c'est un phénomène, c'est Wyatt Davis. Wyatt Davis, c'est un guard, globalement, il n'a pas beaucoup de défauts. Il n'a pas beaucoup de défauts, il a le physique parfait, il a un équilibre qui est très bon, il est aussi bon en jeu de course qu'en jeu de passe. Il panique jamais, il suit toujours ses blocs. Alors oui, 2020 n'était pas sa meilleure saison. C'est sûr que peut-être que si tu joues beaucoup en deuxième rideau, c'est peut-être pas le joueur qui va arriver le plus vite au deuxième rideau. Mais globalement, pour moi, c'est le guard, si on parle de guard pur et pas d'hybride comme Elijah Vera Tucker ou Rashawn Slater, c'est pour moi le guard numéro 1 de cette draft. Et pour moi, 43, c'est vraiment le maximum où il pourrait tomber.
Ah oui, moi aussi, moi je te rejoins. Tu vois, je voulais te poser une question, c'était quel est le défaut de Wyatt Davis? Mais effectivement, on a du mal à en trouver un. Donc on va évoquer peut-être sur les décrochages, c'est pas le plus performant. Ouais, si on veut. Moi, je lui vois pas de défaut. Hein. Il est costaud, il est athlétique, il est puissant, il a une bonne technique aussi, il joue bas sur ses appuis. Vraiment, c'est un super joueur et c'est vrai que je comprends pas je le vois très très peu au premier tour dans les mock drafts et j'ai du mal à comprendre. On a vu les autres années des guards, même des centres qui étaient pris au premier tour et je vois pas ce que Wyatt Davis a de moins. Donc, ouais, franchement.
Mais à mon avis, que des gens soient pas surpris si à un moment en 25e choix il est pris.
Oui,
Même
voilà.
si les journalistes lui donnent pas beaucoup d'amour, je pense que les franchises vont lui en donner.
Oui, puis tu vois, ça nous permet de rappeler ce que sont les mock drafts. Hein. Je veux dire, je manque pas de respect aux mock drafts. On en fait, on adore ça. Mais même les mock drafts faits par les gens qui sont payés pour ça, etc., ils font beaucoup d'erreurs. Parce que de toute façon, ils n'en savent rien du tout. Ce que pensent les franchises, ce que pensent les scouts, qui se basent, eux, par rapport à non seulement leur évaluation, qui sont différentes d'une franchise à l'autre, mais aussi par rapport aux besoins d'une équipe. Et moi, je pense qu'effectivement. Wyatt Davis au premier tour, il y en a beaucoup qui seront peut-être surpris, mais pas nous, hein, c'est vraiment un super joueur. Hein. Comme tu disais, peut-être un cornerback, quelqu'un comme Eric Stokes par exemple, qui pourrait être disponible, ça leur ferait du bien. Mais ils peuvent aussi attendre, et d'ailleurs c'est ce que tu fais toi au troisième tour, tu vas sur un cornerback.
Et oui, je vais sur un joueur un peu mal aimé aussi, pour le coup. Paulson Adebo, qui était quand même. Il était projeté fin de premier tour, hein, avant la saison 2020, si je dis pas de bêtises. Bon, il a opt-out. Il aurait pu se présenter d'ailleurs l'année dernière. Il s'est pas présenté et finalement il a opt-out. Bon, mais c'est un joueur de Stanford. On ne peut pas tellement vouloir aux joueurs de Pac-12 qui ont opt-out parce qu'on en a parlé. Dans le dernier épisode, mais bon, la Pac-12, c'était un peu compliqué. Ils ont cru qu'ils joueraient pas jusqu'au bout. C'est un joueur qui est propre. C'est-à-dire qu'il place bien ses mains, il dévie les balles, il a un physique, pour moi, qui est largement suffisant. Il est costaud et il est constant. Par contre, il lui manque ce petit, je sais pas, cette petite étincelle qui ferait de lui un joueur extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas une vitesse extraordinaire. Il a des plaquages qui sont parfois irréguliers. Et il a ce qu'on appelle un recover, c'est-à-dire la capacité à vraiment se reprendre lorsque on est pris par la première feinte. Et il a un peu de mal à se reprendre. C'est-à-dire que s'il est battu dès le départ, il sera battu à la fin. Et du coup, c'est quelque chose qui se coach, je pense, parce que les qualités athlétiques, il les a. Stanford, ça fait bien longtemps que c'est plus l'université NFL ready que ça a été. Et donc, je pense que c'est un joueur, aujourd'hui, on le mésestime, en tout cas, on le met au troisième tour, alors que bien coaché, c'est un potentiel titulaire solide en NFL.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord, oui. Il faut quand même expliquer à nos auditeurs, là tu as évoqué ses défauts, mais en fait tu les évoques pour expliquer pourquoi il serait qu'un troisième tour et pas un premier ou un deuxième tour. Mais c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Il a une très bonne taille, il a de bonnes mains aussi, il a fait beaucoup d'interceptions durant sa carrière. Alors voilà, le souci c'est qu'il n'a pas joué non plus l'année dernière, on aurait aimé le voir, mais c'est vraiment un très bon joueur. Et puis au troisième tour, tu peux pas avoir un cornerback qui soit parfait, donc il y a forcément des choses à reprendre, à coacher. Mais c'est un joueur excellent, oui, je te rejoins tout à fait.
Mais c'est plus rassurant d'avoir un joueur dont les défauts sont des choses que tu peux coacher que d'avoir un joueur dont le défaut, c'est de pas avoir le physique, par exemple. Parce que physique, je sais qu'en NFL, on fait des miracles, hein, physiquement avec les joueurs.
Ouais.
Ils prennent 40 kilos de masse musculaire en 2 jours, mais ils prennent pas 10 cm, ça se saurait.
Oui, c'est clair, c'est clair. Et effectivement, le poste de cornerback, c'est vraiment un poste à adresser, surtout dans cette division, avec tous les Lockett, avec tous les Metcalf, avec tous les receveurs des Rams, avec l'attaque aérienne d'Arizona. Enfin, il leur faut vraiment un cornerback, parce que là, comme tu dis, il y a Jason Verrett, mais le type, c'est un petit peu une porcelaine, hein, même s'il a fait une bonne saison l'année dernière. Ensuite, ils ont qui? Ils ont Dante Johnson, ils ont plus Richard Sherman, donc il faut absolument qu'ils prennent un cornerback, et relativement haut, c'est-à-dire, alors peut-être pas au premier, pas avec le 3, c'est certain, mais deuxième tour ou troisième tour, il faut qu'ils y aillent. Et puis, alors on va passer au sleeper maintenant.
Ah non,
Et
non,
puis,
moi je voulais ton
tu voulais mon
alternative parce que ça me
alternative?
plaît.
Allez, d'accord.
Toi, tu considères qu'on n'a jamais assez de running back en fait.
Mais surtout dans le système de Shanahan, c'est vrai que j'avais une alternative, donc c'était Michael Carter, le running back de North Carolina. Et pourquoi je pensais à lui? C'est parce qu'en fait, Kyle Shanahan utilise un gros comité. Un gros comité, c'est-à-dire pas avec deux joueurs, mais avec trois, avec quatre. Ils ont perdu Tevin Coleman cette année, il n'y a plus McKinnon non plus. Alors je veux bien, il y a toujours Wilson, il y a toujours Mostert, il n'y a pas urgence, mais comme il aime en utiliser beaucoup, pourquoi pas en prendre un? Et puis surtout, je ne parle pas d'un running back, je parle de Michael Carter, parce que c'est un coureur, mais c'est surtout un coureur qui a de très très bonnes mains. Et voilà pourquoi je vois bien Michael Carter dans le système Shanahan à San Francisco. Il a de bons appuis, il court bien. Mais alors attention, il a des mains mais extraordinaires, je veux dire, pour les réceptions, pour tout ce qui va être screen, même tu l'utilises dans le slot, comme un receveur de slot, il ferait des merveilles. Donc oui, moi je suis pour prioriser le poste de cornerback, mais si ça a été fait avant, comme dans mon scénario deuxième tour avec Eric Stokes, je verrais bien Michael Carter à San Francisco.
Moi, je considère que comme le système San Francisco a l'air de marcher avec n'importe quel coureur, prends des noms draftés, ça marchera très bien.
Oui, c'est vrai que ça a l'air un petit peu sa méthode, mais après il peut avoir aussi un coup de cœur, hein. On se rappelle du coup de
Ouais,
cœur qu'il avait
bien
eu
sûr.
pour Joe Williams, mais qui d'ailleurs n'a pas marché. Mais donc voilà, moi je pensais à ce joueur. On va passer maintenant à nos petites pépites, et là on a pris la même direction, mais avec deux joueurs différents. Et toi donc la direction c'est celle de tackle offensif, des joueurs un petit peu en développement, c'est vraiment des joueurs de fin de draft, et tu vas nous parler de Josh Ball, de Marshall.
Oui, je vais parler de Josh Ball. Alors, Grégory l'aimerait bien parce que c'est un cas social. Hein. C'est mec viré de Florida State pour violence domestique, JUCO, enfin bon, bref, tout ce qu'on aime bien. Mais bon, c'est un joueur polyvalent, puissant, des mains violentes. C'est brut, c'est brut, hein. C'est impatient surtout. Donc ça nécessitera beaucoup de coaching, mais bon, c'est un joueur. que je vois se développer comme étant un remplaçant au niveau de tackle droit. Et avec sa puissance et ses mains, s'il se développe bien, pourquoi pas devenir un vrai apport en jeu de course. Et on le sait, le jeu de course, c'est important aux 49ers. Donc voilà, c'est ce type de joueur, encore une fois, développement, mais il peut correspondre au système s'il est bien coaché.
Oui, et que tu peux utiliser aussi sur certains packages, hein, ce qu'on appelle les jumbo packages, quand l'attaque fait rentrer un sixième tackle sur la ligne pour vraiment faire de la course en force. Donc oui, et moi je pars un petit peu du même principe avec un autre joueur qui s'appelle Donovan Campbell, qui est à Louisiana Tech. Alors il a commencé à LSU, puis il a ensuite transféré pour y devenir titulaire à Louisiana Tech. Pareil, il jouait tackle, c'est un tackle vraiment très très costaud, qui est puissant, qui a un jeu très agressif. Et c'est quelqu'un qui pourrait jouer donc dans ces packages-là, mais qui pourrait aussi se recentrer au poste de guard. Et c'est toujours précieux d'avoir ce type de joueur sur la ligne offensive, parce qu'on le sait, tous les ans, il y a des blessures, et puis à voir comment il se développe, prendre un poste de titulaire d'ici 2 ans peut-être. Donc Donovan Campbell ou Josh Ball, effectivement, pour une équipe comme les 49ers qui courent beaucoup, ça serait des choix malins en fin de draft.
Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, t'as tout dit sur le joueur, ça me paraît être un choix très intéressant.
Bon, ben on a fait le tour là du côté de la baie.
Et
Donc
oui.
je vous rappelle que l'émission du jour vous a été présentée par Wilson, la marque qui fabrique The Duke, le ballon officiel de la NFL. Les ballons du Super Bowl sont produits immédiatement après les finales de conférence pour faire apparaître le logo des équipes qui vont y jouer. Le ballon Wilson The Duke que vous retrouvez bien sûr sur decathlon.fr. Ben écoute, merci Victor.
Bien, merci à toi, merci à toi. On va se retrouver pour parler des tigrous.
Voilà, exactement, les Bengals de Cincinnati. Donc à demain les amis. Bye.
Au revoir.